France Musique. Les grands entretiens, Corinne Schneider.
Je m'appelle Elena Bashkirova. Je suis née à Moscou. Je suis musicienne, pianiste.
Elena Bashkirova, vous nous avez raconté les tout débuts de ce Festival international de musique de chambre de Jérusalem que vous fondez en 1998, qui sont d'ailleurs toujours actuels et qui se déroulent au mois de septembre chaque année. Mais si vous voulez bien revenir dans cette année de démarrage, on a bien compris quelle était votre idée autour de quelques amis, mais premièrement, pourquoi Jérusalem? Pourquoi pas Tel Aviv, par exemple? Et ensuite, quelles ont été matériellement les possibilités ou les non-possibilités sur place?
Vous savez, quand on a commencé, c'était exactement Jérusalem. Tel Aviv sera beaucoup plus facile de faire les concerts parce que toute la vie culturelle, c'est là-bas. Ils ont tout.
La danse, le ballet?
Tout, le bon orchestre, l'opéra, il y a tout. Mais c'était Jérusalem qui était intéressant à cause de cette histoire. Jérusalem, c'est quelque chose que quand n'importe qui va à Jérusalem, c'est le choc culturel qu'on trouve, historico-culturel. Tout ce que cette ville nous a donné comme l'histoire, on ne peut pas nier ça. C'est la lumière, c'est l'énergie spécifique que rend cette ville vraiment irrésistible. Alors, cette irrésistibilité, pour tous les musiciens qui arrivent là-bas, c'est bien sûr aussi, c'est un grand atout. On peut dire on va à Jérusalem et tout le monde veut y aller parce que il y a quelque chose de spécial. Pour les gens là-bas, c'était vraiment une très bonne action de faire le festival là-bas parce que cette public-là, ils ont vraiment perdu beaucoup. Il y a beaucoup de musiciens, par exemple des musiciens ou des scientifiques qui peuvent plus vivre là-bas parce que la vie est très dure à Jérusalem. Il avait les années avec beaucoup d'attentats. Il avait les années avec beaucoup de difficultés politico-religieuses. Il y a ces communautés qui se détestent. Il y a une tension permanente. Alors la vie est dure là-bas, de tous les points de vue. Et alors de créer un festival de musique de chambre dans un endroit qui est difficile, mais somptueux, était plus intéressant de le créer quelque part que c'est tout à fait normal, aller dans une ville qui, de toute façon, fait, on peut aller dans ce concert, ou peut-être au festival. Pour là-bas, pour Jérusalem, c'était une chose unique. Dans mon esprit, je pensais de pouvoir amener les meilleurs musiciens du monde entier là-bas. Vraiment pour dire merci à tout ce que cette ville nous a donné. Disons un tout petit peu comme ça. La réponse était énorme. Alors tout le monde voulait venir là-bas et c'était pour le public local. pas pour les touristes. C'était pour les gens qui habitaient là-bas. Et ça se prit très bien. Parce que ça, c'était conçu comme ça et aussi compris comme ça, que le public là-bas. Première année, on a joué dans un petit théâtre, très charmant, pas une grande acoustique. Et après 2-3 ans, il est devenu trop petit. Parce que le succès était vraiment tout de suite, assez grand succès. Et les gens ont commencé à venir et c'est devenu une chose tout à fait spéciale. Peut-être le meilleur festival de musique en Israël, en tout cas, et un événement le plus important culturel en Israël. Voilà, Jérusalem avait besoin de ça beaucoup plus que les autres villes. Comment on peut faire ce festival? C'est parce que tous les artistes jouent gratis. On ne reçoit rien là-bas. Seulement, moi je dis, on va là-bas pour une semaine, 10 jours, et on ne reçoit absolument pas de salaire, mais peut-être 2 kilos en plus. On arrive à
parce que vous...
on reçoit, parce qu'on mange très bien là-bas. En nature, on reçoit. Cette culture européenne qui était là, elle était palpable. Beaucoup de ces gens, par exemple, pendant les œuvres, je ne sais pas, de Schubert ou de Lieder surtout, on pouvait presque sentir qu'ils chantent avec, parce qu'ils ont ça, ils ont toujours, ils connaissaient énormes connaissances.
Il y avait une connexion de répertoire.
Incroyable, incroyable. Et il avait aussi, intéressant, cette soif d'apprendre de nouveau. Souvent, par exemple, j'ai fait le programme très, très, très osé, avec beaucoup de la musique moderne et des choses vraiment très dures pour la musique. Et il avait les commentaires de tous ces gens très vieux. Il a dit, ah oui, c'est dur, c'est difficile, on ne comprend pas tout, mais s'il vous plaît, faites plus de ça.
Public exigeant.
Oui. Faites plus de ça parce qu'on a envie d'apprendre. Moi, j'étais vraiment tellement ému par cette curiosité et cette volonté d'apprendre, même quand tu étais très vieux. Mais au fur et à mesure, cette génération est, elle plus là. Et la prochaine génération de vieux est pas aussi curieuse. C'est drôle. Ils sont plutôt bouillis, plutôt ils veulent écouter les mêmes choses.
Alors, est-ce que c'est pour cela, Elena Bashkirova, que vous thématisez chaque année ce festival? C'est-à-dire qu'il y a toujours un thème.
Oui.
Et cette thématique, d'ailleurs, elle est souvent en lien, très en lien avec la vie, avec la cité, avec les questions culturelles et politiques.
Oui. Politique. Mais souvent, vous savez ça, je fais jamais un thème très dogmatique. Il y a toujours deux thèmes. Il y a un qui est plutôt social, historique, et l'autre, souvent lié à un compositeur. Ça m'intéresse de faire les thèmes comme ça, de faire le fil rouge qui passe comme ça, une dramaturgie du programme. Par exemple, il y avait un qui est très intéressant, toutes les œuvres tardives. Il y a beaucoup de ces grands compositeurs qui ont vécu les vies tellement courtes. Comment on peut parler de, je ne sais pas, de l'heure tardive de Schubert? Il y avait beaucoup qui sont morts vraiment avant qu'ils ont commencé à être adultes presque. Alors, mais quand même dans leur œuvre, il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes. Le quintet de Schubert, par exemple, pour deux violoncelles, c'est une chose, et le petit rond de ça, c'est jeune. Alors, on a quand même une différence. Je crois que ces grands génies, chaque année de leur vie était comme 10 ans dans les vies des autres. Thank you. c'était très intéressant de faire cette œuvre tardive. Et ça, c'était magnifique concept. On a commencé chaque concert avec une fugue de la Kunst der Fugue de Bach, parce que ça, c'est son œuvre, dernière œuvre. Et alors, chaque fugue avec les autres instrumentations, on peut le faire avec tout. On peut le faire avec quatre marimbas, si on veut, ou avec le deux pianos, avec trio à cordes, il y a les canons, il y a les fugues, c'est très intéressant. Après, on a fait, bien sûr, le tardif, le Brahms, le Beethoven, et tout ça. Et aussi, les gens, par exemple, les compositeurs comme Elliot Carter, on a fait, parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore 100 ans, mais c'était déjà assez tardif, les œuvres. Les choses comme ça. Non, ça c'était très intéressant. Les thèmes comme ça sont énormes. On peut faire plein de festivals.
Spürt die kühlen Schleifen der Brunnen in ihren grünen Himmeln über den Hügelketten lautlos poltern Vögel zu häufen den Heimzug der Sterne in weiten spüren und spielen. Geweihe steigen mit tätowierten Schiffsrümpfen aus den Waben. Da ist ein Pegel einer Glockenspeis, melke Bienen, sähe Hasen und stürz aus den oben grün frischen Weiden die Schwalbenschwänze und heidnischen Schreie.
France Musique, les grands entretiens d'Elena Bashkirova.
En 2012, sur la lancée de cette nouvelle veine qui était devenue la vôtre, c'est-à-dire l'organisatrice et la directrice artistique que vous êtes toujours à Jérusalem, vous initiez un deuxième festival qui est cette fois basé à Berlin, là où vous vivez. Donc là, c'est une nouvelle aventure, Elena Bashkirova. Pouvez-vous nous dire sur quelle impulsion vous allez mener un deuxième festival et pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà toute l'activité à Jérusalem.
Tout à fait. Vous savez, cette impulsion, c'est aussi la continuation un tout petit peu. Parce qu'il y a 20 ans, ils ont ouvert le musée juif à Berlin, qui était vraiment devenu une très grande institution. C'était bâti, il y a un vieux bâtiment, plus un nouveau bâtiment par Daniel Libeskind, qui est très, très, très intéressant. Et le musée, au début, ils n'ont pas encore eu, savaient qu'est-ce qu'ils voulaient faire. La musique n'était pas encore dans le
programme,
pas du tout. Mais 10 ans plus tard, le directeur et fondateur de ce musée, il m'a téléphoné, il a dit qu'ils veulent maintenant faire quelque chose musical, et il me demande si j'ai envie de m'en occuper. Et moi, je pensais que, bon, une série dans un musée, c'est aussi très bien, mais pour un musée qui n'a pas la salle de concert, de chaque fois pour un concert, de tout faire, c'est un peu difficile. Alors, parce que acoustiquement, c'était pas idéal, et alors, on a pensé, pourquoi ne pas faire comme ça en pendant de festival Jérusalem, on fait le petit frère. Disons, le petit frère.
Parce que vous dites pour Jérusalem, c'est votre troisième enfant. Alors ouais. Là, c'est votre quatrième enfant.
Absolument. Oui, c'est le petit frère. De... On dit comme ça. Et alors, le petit frère à Berlin, là, j'avais un tout petit peu les doutes. Parce que Bien sûr, on pouvait, je fais le même formule de, comme ça, de programme, d'amener les mêmes gens. Un tout petit peu, il fallut quand même changer Berlin avec tout ce que Berlin propose. Il y a un énorme choix de choses qu'on fait là-bas, qu'on peut savoir, tous les concerts. Mais on a pris avec un intérêt que, avec tout ça, le festival de musique de chambre à Berlin n'existait pas. Alors, c'était le seul festival de musique de chambre. Et alors, on a commencé. Tout de suite, c'était un très grand succès. Et tout de suite, c'est devenu quelque chose vraiment où les gens voulaient aller chaque année. Chaque année, on a demandé, ah, mais le prochain, là. Et c'est devenu une chose soi-même. Elle peut exister sans Jérusalem. Les commandes d'œuvres à Jérusalem et à Berlin. Ça veut dire qu'on est souvent, on fait le co-production avec la nouvelle œuvre et on fait soit première à Jérusalem ou à Berlin. Mais bien sûr, j'essaie quand même. Mais vous savez, moi, je fais le système de programme, je l'appelle club sandwich. Vous savez, le club sandwich, c'est toujours un morceau de pain, beurre, un peu de jambon, encore de pain, un peu de fromage, un peu peut-être le poulet,
à volonté, crevettes,
à volonté et après et le temps. Alors, ça veut dire que le pain et beurre, ça doit être là dans le programme, présenté toujours. Mais entre les morceaux de pain, on peut donner les choses plus intéressantes. Mmh. Et les morceaux de pain, c'est aussi c'est notre grand répertoire. Le pain quotidien.
Le pain quotidien.
Le pain quotidien.
Quelles sont ces créations que vous avez initiées? Auprès de quel compositeur?
Il y a quelques compositeurs israéliens qui étaient vraiment bien. On a aussi créé, par exemple, le concerto de flûte de Elliot Carter avec Emmanuel Pahu. Ça, c'était vraiment grand.
Flûte solo de l'Orchestre Philharmonique
oui,
de Berlin.
Magnifique flûtiste. Et alors, ça, c'était grand travail. On a fait aussi, par exemple, quelques compositeurs allemands. On a fait Matthias Pincher avec le violoncelle. Il y a des choses de Jörg Widmann. Il y a des choses de Christian Jost. Il y a beaucoup. On a commencé avec Jörg Höller qui a écrit une sextette avec les vents. Alors, très international.
C'est très intéressé par la création de la musique d'aujourd'hui oui. Et on connaît les liens entre Daniel Barenboim et Pierre Boulez.
Oui.
Mais les vôtres, entre vous et Pierre Boulez. Est-ce que cette histoire a existé et sous quelle forme? Vous, la pianiste, oui. Vous, la musicienne?
Oui, non, avec la Pierre Boulez, moi, je jouais avec lui. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidée aussi, parce que je jouais le troisième de Bartok avec lui, et on a répété, il aime beaucoup, j'ai vraiment beaucoup profité de ça. Aussi, bien sûr, c'était l'ami de famille aussi, et j'ai énormément appris de lui aussi comme musicien.
De famille, mais par rapport à votre père ou
non,
votre
mari? Mon mari, Daniel. Mes enfants. Ça veut dire que Michael, c'était le seul qui a joué avec lui beaucoup. Il a appris avec lui. Lui, il avait de la chance que Boulez lui a enseigné, par exemple, le concerto de Schoenberg.
Ah.
Il a joué avec lui, c'était le premier. Alors, c'est avec lui qu'il a appris cette œuvre. Et après, il a appris aussi avec lui son anthème 2. Et c'était Pierre Boulez qui a fait électronique avec lui-même avec lui. C'était, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Il joue la musique, la nouvelle musique, ou disons musique contemporaine ou moderne, avec la même exigence de beauté et de perfection comme s'il jouait le concerto de Beethoven ou de Brahms. Et c'est ça la clé. De jouer la musique moderne, pas comme dans le ghetto, qu'on joue uniquement moderne musique, et ça devient vraiment sec. Il le fait, et les grands interprètes doivent le faire aussi. C'est comme ça qu'on rend cette public proche. Elle doit être interprétée avec le même élan et avec la même attitude, comme concerto de Brahms ou comme Mozart.
Daniel Barenboim dirigeait à Berlin en 2017 Dérive 2 de Pierre Boulez avec les musiciens du Divan Orchestra. Ne manquez pas demain le dernier volet des grands entretiens d'Elena Bashkirova qui nous parlera de son dernier disque consacré aux impressions poétiques de Dvorak et qui évoquera ses projets notamment à la Fondation Mendelssohn de Leipzig. Cette série préparée par Flora Sternadel avec François Rivalan à la prise de son et Claude Niort au mixage a été réalisée par Christine Amado. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.